pense que c'est important de se reposer sur les projets des artistes pour simplement ouvrir les yeux et prendre connaissance de choses dont on n'aurait pas forcément conscience.
Bonjour Maxime Matisse.
Bonjour.
Dernièrement, tu as fait parler de toi pour être sorti dans les rues de Rennes, couvert de 150 attestations de sortie, toutes datées et signées. Avant de parler de tes autres travaux, j'aimerais revenir sur cet épisode. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette idée et qu'est-ce que tu cherchais à démontrer ?
L'idée est venue d'un constat assez simple, c'est que je n'aurais jamais imaginé dans ma vie devoir un jour indiquer sur un bout de papier la raison pour laquelle j'allais sortir dans la rue. J'aurais encore moins imaginé être obligé de me mettre en quarantaine. Donc en fait, le costume et cette performance est un peu une réaction à la politique de santé publique actuelle. Parce que quand on réfléchit un peu, la quarantaine et le confinement sont des techniques qui ont été inventées et utilisées pour la première fois au Moyen-Âge. Et donc, malgré en fait notre armada de technologies et d'innovations, on se rend compte qu'en 2020, on est encore obligé d'utiliser des techniques comme le confinement qui sont moyenâgeuses. Alors il y a plusieurs raisons que je ne vais peut-être pas expliciter, mais il y en a notamment qui sont liées à des scandales sanitaires qu'il y a en France, mais pas que, qu'il y a aussi dans d'autres pays d'Europe, comme le manque de lits de réanimation, la pénurie de masques et tout ça. Donc en fait, cette performance, c'est un peu une façon de questionner le confinement sans le remettre en cause. Donc comme j'ai dit déjà plusieurs fois, actuellement, c'est un peu la seule solution qu'on a pour sauver des vies, donc je ne dénigre pas du tout le confinement, je pense qu'il faut le respecter tant qu'il est imposé. Mais cette performance avait plus vocation à questionner les attestations, qui sont en fait une incarnation du confinement, essayer de faire réfléchir les gens sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qu'elles représentent, et comment est-ce qu'on en est arrivé au point de devoir rester enfermé chez nous, écrire sur un bout de papier notre raison de sortie.
Donc l'attestation symbolise également l'incapacité de l'État à faire face à l'épidémie. Selon toi, comment est-ce que l'État français aurait dû réagir pour endiguer l'épidémie dès le départ ?
Alors moi je ne suis pas médecin, ni épidémiologiste, ni statisticien, mais quand je vois comment certains pays asiatiques ont réagi, notamment Taïwan ou la Corée du Sud, on voit quand même qu'il y a des solutions qui sont différentes et qui auraient pu être mises en place. Par exemple, mettre en quarantaine seulement les gens malades, faire une espèce de campagne de test beaucoup plus importante que celle qui est actuellement en France. Je rappelle quand même qu'en Allemagne, le confinement est très différent du nôtre, c'est-à-dire que les gens peuvent sortir dans la rue, et ça, c'est notamment parce qu'ils font des tests de façon massive et parce qu'ils ont une capacité de réanimation qui est, alors je ne sais pas de quel facteur, mais il y a plus de 20 000 lits de réanimation en Allemagne alors qu'il n'y en a que 7 000 en France. Donc en fait, cette performance vise un peu à questionner tout ça et à ouvrir un peu les yeux du grand public sur la raison pour laquelle on en arrive là.
Concernant justement les manques de moyens accordés aux hôpitaux, notamment par rapport aux lits de réanimation, est-ce que selon toi, la raison de l'échec de l'État français pour endiguer l'épidémie, est-ce que ce n'est pas la conséquence plutôt d'une politique de rigueur économique qu'il a menée ces dernières années, qui ne donne pas beaucoup de moyens à la santé ?
Oui, c'est certainement lié. En tout cas, je pense qu'on n'aurait pas autant de morts si on avait évité en fait, de faire toutes ces coupes budgétaires pour les hôpitaux. Les professionnels de la santé se plaignent depuis des années du manque de moyens, et c'est seulement aujourd'hui, quand le pays est en crise, qu'on leur donne la parole et qu'on réalise un peu l'ampleur des résultats en fait, de la coupe budgétaire. Donc c'est sûr que c'est lié à ça, mais je dirais que la partie la plus dramatique de cette crise est liée à ça, c'est-à-dire les morts. À Taïwan, j'ai pas les chiffres précis, mais il y a un pourcentage extrêmement faible de morts par habitant, alors que c'est un pays qui est collé à la Chine où tout a commencé.
Donc je le rappelle, tu es sorti dans les rues de Rennes couvert de 150 attestations. La vidéo que tu as tournée de ta performance a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, mais dans la rue, quelles ont été les réactions des gens que tu as croisés ?
Alors la performance, je l'ai faite le 23 mars, donc c'était à peu près une semaine après le début du confinement. Donc il y avait assez peu de gens dans la rue et les gens qui étaient respectaient scrupuleusement les mesures indiquées par le gouvernement parce qu'il y avait une espèce de psychose ambiante sur ce virus. Donc les gens réagissaient tous assez positivement, je dirais, ça donnait un peu le sourire à certains. D'autres comprenaient pas, me posaient des questions, s'interrogeaient, donc J'ai envie de dire, le but pour moi de l'art contemporain et de la performance, c'est pas d'apporter une réponse, mais de créer un questionnement. Et pour le coup, dans la rue, ça s'est fait plutôt bien à ce niveau-là.
Et c'est pour ça qu'il fallait aller dans la rue, puisque tu aurais pu tourner la vidéo chez toi tout simplement sans prendre le risque d'être arrêté par des agents. C'était important pour toi d'aller dans la rue à la rencontre des gens directement?
Bah oui, pour moi, cette performance a été pensée d'abord pour avoir un impact direct sur les gens. Le fait que ça ait buzzé et que ça ait été repris un peu partout, c'était qu'un plus secondaire auquel j'avais pas forcément pensé. Moi, la façon dont je l'ai filmé, c'était plus une manière de documenter ce moment. Mais donc, effectivement, le plus important pour moi, c'était d'abord de toucher les gens dans la rue qui étaient confrontés directement à ce costume, quoi.
Tu as été arrêté par la police. Quelle a été la réaction des agents?
Ben ils ont pas compris, ce qui m'a pas étonné. Ils ont été froids, ils étaient dans le rôle de policier, ce qui est tout à fait à leur honneur parce qu'ils n'avaient pas besoin de devenir potes avec moi. Par contre, ce qui est drôle à préciser, c'est que sur la durée de la performance, c'est-à-dire une quarantaine de minutes, j'ai croisé deux camionnettes de police qui m'ont pas arrêté et qui eux étaient complètement morts de rire en fait à l'intérieur en me croisant. Et c'est que la troisième fois que j'ai croisé la police, que j'ai été arrêté. Donc ils m'ont demandé de présenter mon attestation, ce qui était assez ironique pour le coup, sans vraiment le vouloir, ce que j'ai fait. J'ai juste eu à leur entendre une des 150 que j'avais sur moi. Et ensuite, ils n'ont pas vraiment compris la dimension artistique. Pour eux, c'était plus une provocation ou une façon de créer des attroupements et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de détruire le costume.
Dans une interview que tu as accordée à Mediapart, tu as évoqué le terme d'institution totale, développé par le sociologue Erving Goffman, qui a étudié notamment les asiles et les prisons. Ce terme décrit un système d'organisation bureaucratique exerçant son pouvoir en atomisant la société et en développant un système de surveillance. Est-ce que, selon toi, ça fait écho à la politique actuelle du confinement de la population en France et ailleurs en Europe ?
Alors Erving Goffman, c'était quand même une autre époque, c'est-à-dire qu'il a beaucoup étudié les asiles, les prisons et les camps de concentration, donc heureusement on est loin d'être dans des systèmes aussi dramatiques que ceux-là. Par contre, ça laisse quand même songeur et ça fait quand même réfléchir sur la façon dont un État peut imposer un dispositif de surveillance. Et surtout, ça laisse assez. Moi, ça m'inquiète pas mal sur la façon dont on va sortir de ce système de surveillance. En ce moment, il y a tout un débat sur les drones qui sont commandés par l'État pour surveiller les gens, alors qu'on manque toujours autant de moyens pour les hôpitaux. Je pense que, en fait, ce parallèle que j'ai voulu faire avec le sociologue, c'est une autre manière de faire réfléchir sur l'après-crise du coronavirus et sur la façon dont le gouvernement va peut-être profiter de cette crise pour instaurer encore plus un état de surveillance totale.
L'institution totale, telle que conceptualisée par Erving Goffman, entend non seulement surveiller la population, comme tu le disais, et restreindre ses libertés, mais également s'occuper d'elle en répondant à ses besoins primaires. Est-ce que, selon toi, on retrouve cet aspect d'infantilisation de la population dans la façon dont le gouvernement français gère la crise ?
Oui, moi je trouve que c'est ce que incarne et représente les attestations, en fait. C'est-à-dire que dans ce que dit Goffman, il y a un traitement collectif, mais qui est soumis à un système d'organisation bureaucratique. Et pour moi, les attestations, ces bouts de papier, ça incarne toute la charge bureaucratique propre à la France, en fait. Donc effectivement, demander aux citoyens d'écrire sur un bout de papier qu'ils vont aller acheter de quoi manger pour la semaine, je trouve ça assez infantilisant et peut-être pas forcément utile quand on voit comment d'autres pays, comme l'Allemagne, gèrent la crise de façon beaucoup plus efficace.
En obligeant à porter une attestation, on enlève en fait aux gens leur autonomie et leur capacité de décider s'ils ont besoin de sortir pour telle ou telle raison. Ils doivent se justifier en permanence en fait.
Oui, c'est ça, c'est une justification et c'est soumettre surtout les moindres détails de l'activité de chacun au jugement de l'autorité. C'est un peu une façon de dire, on a pas de masque, on n'a pas assez de tests, on n'a pas de lit, mais on va faire en sorte que les citoyens gère tout seul la crise en étant bien discipliné et en se soumettant à un système de surveillance assez massif, quoi.
c'est pas la première fois donc, que tu t'intéresses aux thématiques de la surveillance et de la privation de liberté. On les retrouve dans ta série de photographies 2091, Ministry of Privacy, qui est publiée d'ailleurs dans les revues 6 mois et 21. Sur ces clichés qui ont été réalisés en Chine, apparaissent les informations biométriques des visages des sujets. Est-ce que ces visages quadrillés formulent une critique face à la surveillance de masse ?
Oui, alors c'est, je vais un petit peu développer ce projet parce que les situations sont heureusement pas du tout comparables. Donc c'est un projet qui documente la façon dont le gouvernement chinois utilise des technologies extrêmement intrusives comme la reconnaissance faciale ou le prélèvement ADN envers une minorité ethnique qui sont les Ouïghours et les Kazakhs dans la région du Xinjiang à l'extrême ouest de la Chine. Donc ce projet en fait utilise l'outil de surveillance de masse sur des photographies que j'ai prises pour le dénoncer, le donner à voir, parce que ce qui est assez pervers avec ces technologies, notamment la reconnaissance faciale, c'est que c'est tout à fait invisible. Ça se passe à l'intérieur des caméras, ça se passe à l'intérieur de serveurs. Nous, on a que l'information, tiens, il y a une caméra qui nous voit, mais on ne sait pas que la caméra enregistre notre visage et l'assimile à un nom. Donc en fait, ce projet dénonce et donne à voir les dérives totales que peuvent prendre l'utilisation de ces technologies par un gouvernement totalitaire ou non. Heureusement, en France, on n'en est pas à ce point-là, mais ça n'empêche qu'il faut rester vigilant.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce travail de photographie ? Comment est-ce qu'il est né ? Est-ce que c'est dû à ton voyage en Chine ou alors est-ce que c'était antérieur ? Est-ce que le voyage en Chine était une conséquence de cet intérêt pour la surveillance de masse dans le Xinjiang ?
Bah ça a été assez long comme développement. J'ai fait un premier voyage en Chine en début 2019 pour m'intéresser au système de notes sociales que la Chine veut mettre en place pour les citoyens. Alors ce premier voyage, j'ai réalisé qu'en fait ce système n'est pas prêt du tout, parce que quand on a un pays avec plusieurs centaines de millions de citoyens, c'est compliqué de mettre ça en œuvre. Donc ça a été un peu une façon de découvrir la culture chinoise et comment ces systèmes ne sont pas encore en place. Par contre, pendant ce premier voyage, j'ai compris que ce qui se passait dans cette région de l'extrême ouest, donc le Xinjiang où vivent les Ouïghours et les Kazakhs, était un espèce de génocide culturel, mais assisté par la technologie, parce qu'il faut préciser que la Chine est leader dans la création et le développement de ces technologies de surveillance de masse, que ce soit la reconnaissance faciale ou autre, et qu'en fait, le Xinjiang, c'est un territoire de non-droit pour les populations, où le gouvernement, en plus d'enfermer les gens dans des camps, procède à un test massif de toutes leurs dernières technologies avant de les exporter ailleurs en Chine et ailleurs dans le monde.
Et tu as été là-bas du coup ?
Oui, je suis allé là-bas de janvier à mars 2019. Alors je suis allé qu'une seule semaine pour faire des photographies de la façon dont ces communautés vivent, parce que le but du gouvernement chinois, c'est de décimer leur culture. Donc ce projet a un double usage. Le premier, c'est avec une approche très classique de photographie documentaire, de montrer en fait qu'ils ne vivent pas forcément avec les mêmes codes culturels que les citoyens chinois. Et d'un autre côté, montrer la face cachée de cette technologie de reconnaissance faciale. Alors cette partie-là, je l'ai faite en travaillant avec un ingénieur en informatique qui s'appelle William Attache, un Toulousain. Et ensemble, en fait, on a développé un logiciel de reconnaissance faciale qui est similaire à ceux qui équipent les caméras de surveillance dans cette région de Chine. Et donc ce que je faisais, c'est que la journée, je faisais des images des Ouïghours et des Kazakhs dans leur quotidien, et le soir, dans mon hôtel, j'envoyais ces images dans les logiciels de reconnaissance faciale, qui eux-mêmes dessinaient en fait sur les photographies les données biométriques de ces gens, et donc qui donnaient à voir la face cachée de cette technologie.
Et comment tu as procédé pour travailler sur place ? T'avais pas peur de te faire arrêter par la police locale si jamais ils se rendaient compte de ce que tu faisais ?
Ben alors, travailler sur place, c'était compliqué parce que j'y suis allé 7 jours et j'ai été arrêté 7 fois en 7 jours. Donc c'est pour dire que quand même, ils savent très bien ce qui se passe et ils font tout pour qu'il n'y ait pas d'informations qui sortent de cette région. Moi, j'étais juste protégé par le fait que je n'étais pas un citoyen chinois et que mon passeport belge me protégeait un minima de disparaître en fait dans cette région. Il faut quand même parler des photographes chinois et des activistes qui disparaissent tous les jours en Chine parce qu'ils s'attaquent à des sujets un peu trop sensibles. Et moi, je me pose beaucoup la question de légitimité dans mon travail, c'est-à-dire que j'ai besoin de m'assurer qu'il y a bien une légitimité à partir dans une région que je ne connais pas, dans un pays où la culture m'est inconnue, pour parler d'une dérive. Et en fait, là, le fait que ce soit la Chine et qu'un photographe chinois qui travaillerait là-dessus se ferait emprisonner, ça m'a donné assez de légitimité pour me permettre de le faire.
Et sur place, est-ce que tu as eu de l'aide des personnes que tu as rencontrées qui ont pu t'expliquer la situation aussi?
Non, alors faut savoir que sur place, le Xinjiang et la ville où j'étais, Kashgar, c'est comme une zone en guerre en fait. C'est-à-dire qu'il y a des checkpoints de police tous les 500 mètres. C'est une des zones les plus densément équipées de systèmes de surveillance, que ce soit caméra ou autre. Et donc en fait, dès qu'un étranger parle à un Ouïghour ou à un Kazakh, il est presque systématiquement arrêté et il risque de se retrouver dans un camp de rééducation. Donc en fait, mon parti pris, c'était de parler à personne. Si ce n'est les policiers qui m'arrêtaient tous les jours. Et donc voilà, j'ai pas pu avoir d'informations. De toute façon, je parle pas chinois, ni ouïghour, et eux parlent pas bien anglais, donc dans tous les cas, la communication n'aurait pas été possible, quoi.
Donc tes informations, en fait, tu les as récoltées en faisant de la recherche ailleurs, une fois que tu étais en Europe, en fait.
Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce projet, c'était le moment où on commençait vraiment à se rendre compte des camps de rééducation et ça commençait un peu à faire scandale, notamment aux États-Unis. Donc il y avait énormément d'activistes et d'ONG, j'ai d'ailleurs travaillé avec Human Rights Watch et Amnesty sur ce projet, qui commençaient à s'y intéresser et qui, avec leurs propres indices, si je puis dire, sur place, avaient assez d'informations pour savoir ce qui se passait. Moi, du côté qui m'intéressait, c'est-à-dire des dérives technologiques, enfin des dérives autoritaires en utilisant la technologie, il y avait pas mal d'ingénieurs ou d'informaticiens qui ont découvert en fait des leaks, quoi, des fuites de données qui montrent qu'il y avait carrément tout un système de fichage massif des musulmans dans cette zone par reconnaissance faciale et par vidéosurveillance. Donc mon enquête, je l'ai faite à distance en Europe, et une fois que j'y étais, je n'avais plus qu'à photographier, à protéger mes photos, parce que évidemment la censure est assez dramatique, et à appliquer le logiciel de reconnaissance faciale.
Mon travail 2091 Ministry of Privacy me semble inspiré de 1984 de George Orwell. Dans ce livre, le régime en place inverse le sens des mots pour créer de la confusion dans l'esprit des gens. Le ministère de la paix est en fait le ministère de la guerre, celui de la vérité est en fait le ministère de la propagande. Tu as intitulé ton exposition Ministry of Privacy, donc le ministère de la vie privée. Est-ce que donc c'est une référence explicite à cet ouvrage? Et si c'est le cas, est-ce que tu cherchais à dénoncer l'absence de cette vie privée dans cette province en Chine?
Effectivement, c'est tout à fait une référence à Orwell, parce que la situation est quand même très proche dans ces pays. Et c'est une façon de montrer qu'effectivement, en plus d'enfermer les gens et de les torturer et de décimer leur culture, le gouvernement chinois met en place un système où la vie privée devient inexistante. Si je peux donner des exemples précis, quand j'étais là-bas et que je prenais un taxi, dans un taxi, il y a trois caméras de surveillance. Il y en a une pour le chauffeur, une pour le passager et une pour la route. Et en fait, toute la région du Xinjiang est surveillée dans les mêmes proportions que ce taxi l'est. Donc ça laisse un peu imaginer à quel point on n'a plus aucune vie privée, quoi.
Tu parlais tout à l'heure de ton rôle en tant qu'artiste contemporain, du fait que tu aimais justement questionner, créer des questionnements chez les gens plutôt qu'apporter des réponses. Est-ce que tu penses que c'est similaire au rôle que peut avoir un auteur comme George Orwell, justement, de questionner, mais également dénoncer certaines choses et de faire ressortir certaines dérives autoritaires?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est le rôle des artistes, des écrivains, de toute personne qui s'attaque à ces médiums-là. Je pense que la faculté d'ouvrir les yeux de projets artistiques ou de livres ou de podcasts ou de radio est assez phénoménale, d'autant plus dans des sociétés où la presse devient de moins en moins libre, où la désinformation est de plus en plus présente. Je pense que c'est important de se reposer sur les projets des artistes pour simplement ouvrir les yeux et prendre connaissance de choses dont on n'aurait pas forcément conscience.
Et en ce moment, est-ce que tu es sur un projet en particulier qui va être lié à la surveillance de masse ou autre chose?
Je bosse beaucoup sur des projets liés à l'intelligence artificielle et sur montrer que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente du tout. Alors c'est intéressant parce qu'en ce moment, toutes les innovations, que ce soit des innovations de business ou même de surveillance, sont basées sur l'intelligence artificielle. Et donc là, je suis en train de travailler sur des projets qui montrent avec pas mal d'ironie qu'il n'y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle. En dehors de ça, je suis de près l'application que compte lancer le gouvernement, ou en tout cas que réfléchit à lancer le gouvernement sur le pistage des malades du coronavirus. Parce que c'est pareil, les innovations technologiques, c'est ni tout blanc ni tout noir. Il y a toujours un moment où ça va nous aider sans doute à sortir du confinement plus vite, ça va nous aider à sauver des vies. Mais encore une fois, il faut vérifier que les autorités s'en servent pas pour instaurer un état encore un peu plus liberticide.
Qu'est-ce qui t'intéresse justement entre ce mélange entre les nouvelles technologies et leur influence et puis le politique?
L'arrivée massive des technologies dans nos modes de vie crée en fait des ouvertures de contrôle sans précédent. Enfin, c'est quand même hallucinant de voir que le gouvernement surveille le confinement en vérifiant si les gens sortent de chez eux avec les antennes relais auxquelles se connectent leurs téléphones. Donc il y a des systèmes capitalistes qui nous ont forcés, entre guillemets, à avoir notre mode de vie actuel, c'est-à-dire d'être ultra connectés, presque dépendants aux écrans, aux réseaux sociaux et à Internet. Et en fait, ces technologies-là sont très facilement utilisables par des gouvernements, qu'ils soient autoritaires ou non d'ailleurs, pour pister un peu plus les citoyens. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour l'instant avec nos données, avec le big data. Même si pour le moment ça a plutôt vocation à être utilisé de façon commerciale, il y a sûrement un moment où ça va être utilisé contre nos libertés individuelles.